conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, nous avons donc commencé cette rentrée sous le signe de la transmission. Alors là, ce n'est pas tout à fait une transmission, c'est un rapprochement. Je reçois l'agence Bartolo-Contré, ou Contré-Bartolo, vous me dites, chers messieurs ?
Bartolo-Contré.
Bartolo-Contré. Bonjour. Donc vous êtes architecte associé, vous avez chacun eu un premier parcours. Vous pouvez me brosser un petit peu vos parcours ?
On s'est associé il y a 4 mois, donc c'est une association qui est relativement récente. Moi, j'ai eu un parcours avant cette association, puisque j'ai été l'un des membres fondateurs d'une agence d'architecture qui s'appelle BVAU. Et bon, voilà, elle a eu sa vie. Et puis maintenant, on est associé depuis 4 mois, comme je le disais, avec Olivier Contré. On va essayer de... Donc Olivier Contré, qui a eu lui aussi une vie, puisqu'il était associé dans l'agence Brunet et Saunier pendant quelques années. Puis après, il a rejoint le groupe Cardam. Et cette association naissante commence sous des auspices plutôt favorables, puisqu'on a d'ores et déjà gagné un concours en Pologne pour des logements sociaux.
Alors oui, on va en parler, mais je vais laisser d'abord Olivier prendre un petit peu la parole. Pourquoi passer de Cardam à cette association ? Il y avait quelque chose chez Cardam qui ne vous convenait pas ? Sans être polémique, évidemment.
Non, c'est, voilà, c'est un parcours,
c'est notre histoire.
Un parcours de vie. Ouais. J'avais besoin de connaître la pluridisciplinarité chez Cardam. J'ai beaucoup appris aussi ce que c'est le marché privé, puisque avec Jérôme, on a pratiqué uniquement le marché public. Donc c'est une facette qui me manquait. Et non, on s'est séparés vraiment très bien. Et voilà, ma carrière continue avec Eric.
Alors, donc je rebondis sur ce projet de logements sociaux en Pologne. Est-ce à dire que les Français, hein, ou les architectes français, sont reconnus pour un certain savoir-faire à l'étranger, ou en tout cas en Europe,
hein ? En tout cas, en Pologne, a priori, ça doit être le cas, puisqu'on nous a appelés pour ça. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'être sollicité par une agence d'architecture qui s'appelle l'Atelier Tectura, qui nous a demandé de les rejoindre dans cette association, parce que l'architecture française des logements sociaux est très largement reconnue. La preuve en est, donc on a...
C'est parce qu'on a des grandes sociétés d'HLM qui ont toujours lancé des concours, sélectionné des architectes, et ça, c'est connu et reconnu ?
Je pense que ça doit faire partie de la réponse, parce qu'effectivement, on a quand même la chance d'avoir en France des logements sociaux, en tout cas une production de logements sociaux qui est de grande qualité. Je ne sais pas si c'est une vérité.
Grande qualité, ça n'a pas toujours été le cas. On va dire qu'on essaie d'enlever les années 60-70. Voilà, on se tourne vers les 20 dernières années.
On va dire que c'est relativement récent dans la temporalité de la construction. Mais en tout cas, actuellement, on est plutôt reconnu pour ça, très largement en Pologne. Mais je pense que c'est aussi un modèle qui peut faire école plus largement en Europe, sur la qualité des logements sociaux qui sont produits ici.
Alors, en Pologne, ancien fief, effectivement, de l'ancienne URSS, je suppose que le modélisme, le préfat, le chemin de grue, etc., c'était du pareil au même que nous, dans les années 60.
Hein. C'est exactement
pas
ça.
Pas grande différence.
La principale difficulté qu'on a pu rencontrer avec l'équipe polonaise, c'est justement sur l'image que nous, Français, on peut avoir des logements sociaux, qui est très largement acceptée en Pologne, et qu'ils nous ont démontré que ça marchait très bien, et qu'il n'y avait aucun souci, et qu'on avait des craintes qui n'étaient pas applicables à leur pays. Et c'est en ça que c'est intéressant de travailler aussi, de se confronter à d'autres cultures. C'est qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort et d'aller chercher ailleurs ou autrement les réponses qu'on doit apporter pour ce genre de projet.
Alors, je vais rentrer, je dirais, un petit peu dans peut-être la figure d'Épinal, mais Pologne dit forêt, forêt dit bois. C'est du bois ?
Non, a priori, c'est...
faire la nunuche de base, mais...
On n'en est pas là, mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est une construction plutôt traditionnelle, sans doute beaucoup de préfabriqués, parce qu'on a un prix de construction qui est pas... qui est légèrement inférieur à celui de la France. Pas très très loin, mais il est quand même inférieur. En toute honnêteté, je ne sais pas encore ce qu'on va vraiment construire. Je ne sais pas si on sera sur des matériaux innovants. Je ne sais pas dans quelle...
on sera à proposer
autre chose que ce qu'ils ne savent faire.
Mais en tout cas, il y a une grande ouverture.
On va espérer en tout cas qu'il y en ait une.
L'hospitalier, puisque chez Brunet-Saunier, vous avez beaucoup travaillé sur des hôpitaux. Olivier, est-ce qu'aujourd'hui, on conçoit des hôpitaux, parce que je pense que vous allez être appelé prochainement, j'espère pour vous, sur de grands concours. Comment se fait l'hôpital d'aujourd'hui ou de demain ? Parce qu'il y a quand même, sur l'hôpital et sur l'objet hospitalier, il y a quand même de grandes discussions en interne dans les hôpitaux sur justement la pratique qui devient un peu plus, entre guillemets, privé, marketing, argent, finance. Et du coup, ça se relaie comment dans l'architecture hein ?
J'ai combien de temps ?
Non, mais...
Une heure ? Une demi-heure ? 10 minutes, 5 minutes,
non,
en 30 secondes.
Il faut commencer déjà.
En quelques mots, non, c'est un débat qui passionne le milieu de l'architecture hospitalière, à savoir que sera l'hôpital de demain. Mais quelque part, on imagine rarement l'architecture comme celle d'hier. C'est-à-dire que même dans le logement, on peut parler que seront les logements de demain. Donc. Ceci dit, se poser la question pour l'hôpital est assez central, puisque un hôpital met 10 ans pour être imaginé, élaboré et ensuite construit. Et souvent,
il est déjà en retard.
Il est déjà en retard lorsqu'il est livré. Donc ça nécessite de faire beaucoup d'anticipation. Alors l'hôpital de demain devrait se baser sur des paradigmes d'aujourd'hui, peut-être de demain. Et ces paradigmes sont... le numérique, l'ambulatoire, sachant qu'il ne s'agit pas de remettre en cause ce qu'on a inventé, ce qu'on a pu mettre en place, notamment en France, puisqu'on est quand même précurseur. Et notamment, je parle de flexibilité, parce que la flexibilité est l'un des principaux problèmes encore aujourd'hui. Donc imaginer l'hôpital de demain, c'est prendre conscience que le numérique prend de plus en plus de place et que finalement l'hôpital physique devra cohabiter avec l'hôpital virtuel, ce qui est le cas déjà un peu maintenant. Voilà, maintenant...
C'est-à-dire qu'on aura des grandes salles d'ordinateurs avec des consultations par des robots derrière des écrans et que ça prend une certaine place qui n'est peut-être pas existante aujourd'hui. J'exagère évidemment en disant ça, mais c'est un peu ça aussi tout de même.
Par exemple, alors, je crois que le numérique va favoriser la prophylaxie, c'est-à-dire la possibilité de ne pas être soigné. Et de faire de la prévention. Grâce à la collecte de données de santé et à l'intelligence artificielle qui interrogera le big data. En France, par exemple, on a un PMSI qui est extrêmement évolué.
PMSI, et, vous pouvez faire...
c'est la base de données des systèmes de santé français, qui n'était pas encore collectée tout à fait dans le big data. Mais demain, ça constituera une base de données des plus fortes au monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on aura un cas clinique à analyser par rapport aux données françaises, on aura un retour extrêmement précis.
C'est-à-dire qu'avant de voir la personne et avant de faire une consultation, je dirais, physique, B2B, on fera d'abord une consultation via le génome et les autres data à disposition.
Absolument. Et ça permettra de mieux soigner, d'éviter les iatrogénies qui représentent quand même 5 milliards d'euros de pertes pour la sécurité sociale en France. Voilà. Donc, l'hôpital de demain, je dirais que c'est pose la question de l'hôpital virtuel. Et on invente avec mes confrères bien-aimés, architectes, est-ce que l'hôpital physique, les transformations que l'hôpital physique doit opérer. Et il y a déjà quelques pistes nouvelles que je ne vais pas énumérer pour confidentialité et qui transforment déjà les concepts.
Wow, c'est passionnant. Je me demande si on ne va pas faire une émission juste sur les hôpitaux. Je
pense avec plaisir.
Je l'attrape au vol et je pense qu'on fera une émission juste sur les hôpitaux. Et peut-être qu'effectivement, il s'agit aussi de faire parler les médecins. Alors, les usagers, évidemment, nous en sommes tous. Mais parce que cette idée de l'hôpital de demain, je pense qu'est évidemment au centre de nos préoccupations, d'autant plus qu'on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a une, entre guillemets, une déshumanisation et que ce rôle du big data peut avoir effectivement une image à la fois vertueuse et peut-être trop virtuelle. Donc on pourra en parler effectivement. Vous réinventez votre rôle chacun en tant qu'architecte ensemble. Et donc c'est quoi cette idée de faire une agence avec qui rassemble de nombreuses références et une nouvelle idée? Il y a aussi la ville. En quoi la ville est votre terrain d'action aussi privilégié, voire qui prend de plus en plus de place,
hein? Alors en fait notre association avec Eric, elle est jeune, elle a 4 mois, il serait plus facile d'en parler si nous étions plus mûrs. Je dirais que pour l'instant, nous sommes associés parce que nous sommes complémentaires. Eric a travaillé sur des sujets sur lesquels je n'ai jamais pu travailler, et vice-versa. Et donc cette complémentarité va être et déjà absolument intéressante. Donc,
Pense qu'on en parlera... lors d'une prochaine émission, je suis désolée de vous couper la parole, on en parlera lors d'une prochaine émission parce qu'effectivement, il s'agit d'un projet très intéressant de s'activer ou en tout cas de s'intéresser à la ville, bien qu'il y ait de plus en plus d'acteurs sur le sujet. Mais je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine émission. Merci à vous en tout cas.
Merci.
Merci beaucoup.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.